Radio Okapi. Babel Pongo pour les journaux. Okapi.
Bonjour, des combats ont repris ce matin entre FRDC et M23 dans la région de Kibumba au Nord Kivu. Des combats à l'arme lourde, des mouvements de population sont déjà signalés. 20 ans de prison et 20 000 dollars d'amende, verdict du tribunal de grande instance de Litouri hier contre l'assassin de Gila Tchanjabo. Ce journaliste de Radio Canal Révélation de Bounia a été tué en mai dernier. Reprise totale des activités commerciales aujourd'hui à Lubumbashi. Hier, les activités commerciales étaient paralysées. La fête dénonçait le scellage de certains commerces de ses membres. Dans ce journal, les raisons de cette reprise. Au Nord Kivu, les combats ont repris tôt ce matin entre FRDC et rebelles du M23 dans la région de Kibumba, 30 km au nord de Goma, territoire de Nyiragongo. Les FRDC et le M23 se rejettent la responsabilité de cette attaque. Des blessés sont déjà signalés de deux côtés. Les deux groupements Kibumba et Bumba se vident déjà de leurs habitants. Le reportage de Gisèle Cage est rendu ici par Gabriel Waminia.
Des tirs à l'arme lourde et légère sont entendus dans les secteurs des trois antennes, dans les groupements de Kibumba et Kanyamaoro, dans les groupements de Bumba depuis 3h du matin, affirment les sources sur place. Les porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le colonel Olivier Amouli, confirme ces affrontements. Il indique que les forces armées de la RDC ont répondu à la provocation du M23 qui a attaqué leur position à Kanyamaoro. Ce que dément les M23 dans un communiqué officiel rendu public tôt ce matin. Des sources concordante, nous apprenons que le bilan provisoire en fin de la matinée fait état de 3 FARDC blessés et de plusieurs combattants du côté du M23. Ces derniers seraient acheminés au Rwanda pour des soins. Jusqu'à ce midi, les balles crépitaient encore. Les deux groupements de Kibumba et Bumba sont vidés de leurs habitants. Ceux de Kibumba ont pris la direction de Kasizi vers l'est et Rugari vers le nord, alors que les populations de Bumba auraient traversé la frontière vers le Rwanda. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
L'autre nouvelle au Nord Kivu, c'est la libération la nuit dernière d'une vingtaine de personnes enlevées mercredi dernier par les présumés rebelles ougandais de Nadef Nalu dans la localité d'Upira. C'est à 45 km de la ville de Beni. Ces personnes ont été relâchées la nuit dernière par leurs ravisseurs, selon des sources concordantes dans le secteur. Le président de la société civile de Beni précise pour sa part que seules 24 personnes ont été libérées. Deux autres ne le sont pas encore. Il s'agit du chef de la localité d'Upira et de son conseiller, selon Teddy Catalico. En province orientale, le calme est revenu hier soir à Bouta, territoire à 324 km au nord de Kisangani. C'est après l'interpellation d'un chef coutumier par le parquet de grande instance de cette entité. Cette interpellation est intervenue au moment où ce chef se trouvait en séance de travail avec ses pairs pour l'élaboration des prévisions budgétaires 2014. Après la réunion du comité de sécurité du district du Bazouélé, l'interpellé a été relâché dans la soirée. Les explications avec Jacques Mkonkole.
Vital Kangolende est chef coutumier de la chefferie Kipate en territoire des Poko, à environ 30 km de la ville d'Isiro. Il était venu à Bouta pour participer au forum économique organisé la semaine dernière par le gouvernorat de province. Au moment de son interpellation hier par le parquet, il participait aux travaux de prévision budgétaire du district pour l'exercice 2014. Le procureur de la République, Mathieu Mambou, affirme qu'un dossier judiciaire à sa charge existe dans son bureau. Il est poursuivi notamment pour arrestation arbitraire suivie de tortures ayant entraîné la mort d'une personne. Selon le président des chefs coutumiers du Bazouélé, Étienne Zélessi, ces faits qui restent à vérifier se seraient produits en 2011. En vue de décrisper la tension qui a prévalu lors de son arrestation, avec notamment le sit-in d'environ 50 chefs coutumiers devant le parquet, le comité local de sécurité s'est réuni d'urgence. D'après le commissaire de district du Bas-Ouélé, Joseph Bouloubobina, l'essentiel était de libérer ses chefs afin qu'il ait la possibilité de se faire soigner. Toutefois, affirme Mathieu Mambou, procureur de la République à Bouta, l'instruction de son dossier est en cours. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Direction le Kasai Oriental, le chef de groupement de Chiyambaba Kwakanjinga au Kasai Oriental et de Bena Kalende de Dimbelenge au Kasai Occidental se sont enfin mis d'accord. C'est après une cérémonie de signature de pacte non-agression mercredi devant les administrateurs du territoire de Kabea Kamwanga et de Dimbelenge. Les habitants de ces deux localités s'étaient affrontés la semaine dernière se disputant des terres. Esther Dalafina.
Avant la cérémonie de non-agression, les administrateurs des territoires de Kabeakamwanga au Kasaï oriental et de Dimbelenge au Kasaï occidental se sont rendus tour à tour à Benankelende et à Chiambabakwakanjinga. Docteur Clément Moulamba, administrateur de Dimbelenge, affirme que lui et son collègue se sont adressés aux communautés de la province voisine qui étaient en conflit avec ses habitants. Le message a été le même, la réconciliation et le rétablissement de la paix. D'après la même source, les deux chefs de groupements en conflit se sont réconciliés en leur présence. Pour concrétiser cet acte, ils ont bu de l'eau dans un même verre devant les habitants de leurs entités. Ils ont promis de ne plus s'agresser dans l'avenir. Dans le but de préserver une paix durable, les deux chefs de groupement souhaitent que soit organisée une cérémonie traditionnelle le 30 octobre prochain, cérémonie à laquelle prendront part les délégations provinciales, territoriales et sectorielles. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
20 ans de servitude pénale principale et le paiement de 20 000 $ américains d'amende à titre de réparation. C'est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de l'Ituri hier à Bounia contre l'assassin de Guylain Tchanchabo. Ce journaliste de la radio Canal Révélation, une radio communautaire locale, a été retrouvé mort le 17 mai dernier à Bounia dans la rivière Ngezi après 12 jours de disparition. Des détails sur ce verdict avec Jean-Paul Basila.
Il y a eu 3 suspects poursuivis dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Guylain Tchanchabo. 2 parmi eux ont été acquittés faute de preuves et celui qui est condamné est le seul qui s'est disputé avec les défunts quelques heures avant sa disparition et lui a même proféré des menaces de mort devant témoins. De menaces que le tribunal estime avoir été mises en exécution par après. Lievin Dounia, président du tribunal de grande instance à Bounia.
Le tribunal a instruit longuement cette cause. Les indices liés de culpabilité étaient établis à charge du prévenu Barak Kato, qui a été condamné à 20 ans de servitude pénale principale, et les acquittés, et faute de preuves, le tribunal a estimé qu'il fallait les acquitter.
Si le conseil du défense s'en félicite, la défense a un avis tout à fait contraire. Maître Papi Chilembi Kabakoubi promet d'aller en appel.
Dans les dossiers, on avait présenté les personnes qu'on a vues les derniers jours avec fait journaliste Tchanchabo. Nous ne sommes pas parfaitement d'accord parce que quand il y a mort d'homme comme ça, le ministère public doit mettre le tout en œuvre pour rechercher les vrais suspects. Nous, on ira en appel par rapport à ces dossiers-là.
Pour rappel, le journaliste Guylain Tchanchabo porté disparu, son corps a été retrouvé le 17 mai 2013 dernier, quelques heures après une marche pacifique organisée par des chevaliers de la plume à Bounia qui déploraient sa disparition. Bounia, Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
Au Katanga, les activités commerciales ont totalement repris aujourd'hui à Lubumbashi au lendemain d'un arrêt d'activité observé par les opérateurs économiques membres de la FEC en mouvement pour protester contre le scellage de plusieurs établissements commerciaux. Les opérateurs économiques dont les magasins étaient scellés par une commission du parquet général de la République pour notamment fraude douanière et fraude fiscale parlent d'un grand manque à gagner enregistré pendant ces 8 jours de fermeture. Colin Dumamoussopo.
Lubumbashi a repris son train habituel. Tous les magasins ont ouvert leurs portes et les clients y affluent. De longues files de voitures stationnées constatées hier devant les stations-service ont disparu et tout s'est fait sans encombre. Du côté de la FEC Katanga, on se félicite du dénouement heureux de cette situation. Parmi les établissements fermés se trouve Hyper Psaromatis. D'après un des responsables de cette entreprise, 8 jours durant, ces établissements ont enregistré un grand manque à gagner sans apprécier leur hauteur. Ce qui, d'après lui, met à mal notamment les difficultés d'honorer la paie des agents et la récolte des fonds des montants pour la TVA. Il convient de noter que c'est au total une dizaine d'entreprises et supermarchés de Lubumbashi qui ont été scellés. Aujourd'hui, toutes ces entreprises scellées sont réouvertes. Lubumbashi. Colin Djuma Moussompo, Radio Okapi.
Autre sujet économique, l'exploitation des permis de coupe artisanale de bois pose de sérieux problèmes dans certains territoires du district du Maïndombe, dans le Bandundu. Selon l'ONG ADDC, basée à Inongo, chef-lieu de ce district, les communautés locales ne bénéficient pas de ce permis délivré entre 2010 et 2012 à quelques compagnies industrielles qui en tirent largement profit, alors qu'en principe, d'après cette ONG, l'exploitation de ce permis de coupe artisanale n'est réservée qu'aux exploitants locaux. Gentil Bongo, coordonnateur local de cette ONG explique au téléphone d'Askin Zigbetayoro.
Et ces compagnies arrivent à exporter des bois d'œuvre vers l'extérieur, principalement vers la Chine. Et c'est un grand manque à gagner pour les communautés locales, parce que les clauses sociales, les cahiers de charges ne sont pas pris en compte par rapport à cette catégorie-là de permis de coupe artisanale. artisanal. Il y a une société Terco qui a un permis de coupe artisanal, mais qui agit avec une machinerie lourde. En principe, il est indiqué que les opérateurs disposant d'un permis de coupe artisanal, ils ne doivent pas œuvrer avec des machineries lourdes. Généralement, ce sont des sillons lents, peut-être des tronçonneuses. Mais là, des fois, on les voit avec des grosses machines, des camions bulldozers. C'est ça que l'on est en train de décrier. À ce niveau-là des permis de coupe artisanaux, les clauses sociales ne sont pas intégrées. Nous nous remettons à l'autorité pour qu'il y ait une action dans ce sens.
Le ministère de l'Environnement, qui reconnaît cette situation, entend donner prochainement des éclaircissements sur ce problème. Nous terminons à Mbandaka avec cette plainte des enseignants participant à l'atelier sur la réforme du programme de l'enseignement technique agricole qu'organise l'inspection générale de l'EPSP. Ces enseignants venus de Bomongo, Lukolela, Bolomba, Ingende, Basankoussou affirment qu'ils ne sont pas pris correctement en charge par l'organisateur. Faute de logement, certains passent la nuit dans des églises et ne savent que faire pour retourner chez eux. Nous faisons le point de leur situation avec Régine Boko.
Ils sont plus de 100, ces enseignants de cours d'option des 50 écoles techniques de l'EPSP Équateur 1. Ils suivent depuis lundi la formation sur la réforme du programme de l'enseignement technique agricole. Mais seulement voilà, les participants à cette formation se plaignent. Les inspecteurs chefs de poule leur avaient certifié qu'en Mbandaka, ils seraient pris totalement en charge par l'organisateur de la formation. Arrivés au chef-lieu de la province, ils sont abandonnés à leur triste sort. Pas de frais de logement ni de transport pour le retour dans leur milieu d'origine. Alphonse C'est Kaputa Kakwa, inspecteur général adjoint de l'EPSP, indique que le séjour des participants à Mbandaka devrait être sous la responsabilité de la province. Pour Brigitte Nyakundre, inspectrice principale provinciale IPP de l'EPSP Équateur 1, sa province éducationnelle n'a pas de moyens pour se faire. Tout à l'heure, demandant de se débrouiller d'abord avec les peu qu'on leur donne comme per diem, elle promet d'intervenir au cas où elle disposerait de quelque chose. Entre-temps, ses enseignants lancent un appel d'assistance auprès des bonnes volontés. Mbandaka, Régine Boku Manzango, Radio Kapi.
Merci Régine et merci à vous qui venez de suivre ce journal.
Okapi, Okapi, eh. Radio.